vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Assassin's Creed Valhalla. On parlera des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, d'une news concernant le jeu Chivalry 2. On aura ensuite une petite news technologie avec Spotify qui pourrait bientôt vous proposer des musiques en fonction de vos émotions. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec Assassin's Creed Valhalla. Alors, c'est un jeu vidéo d'action-aventure RPG en monde ouvert qui est jouable en solo. Il a été dirigé par Ashraf Ismail, scénarisé par Darby McDevitt, avec la musique de Jesper Kidd, Sarah Schachner et Einar Selvik du groupe Wardruna. Il a été produit par Julien Laferrière, développé par Ubisoft Montréal et édité par Ubisoft. Et il est sorti le 10 novembre 2020 sur Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia et PlayStation 5. Donc il appartient à la série Assassin's Creed et il en est le 12e opus canonique. L'action principale d'Assassin's Creed Valhalla, vous vous en doutez, se déroule pendant l'ère viking. Vous incarnez donc Eivor, un viking du sexe de votre choix, qui a quitté la Norvège pour trouver la fortune et la gloire en Angleterre. Raid, construction et croissance de votre colonie, mais aussi personnalisation du héros ou de l'héroïne, sont au programme de cet épisode. Le jeu est classé PEGI 18 et il obtient une note de 18 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et de 7 sur 10 de la part de Gamekult. Il aura donc fallu attendre 13 ans et une flopée d'épisodes pour que la série Assassin's Creed daigne revenir au Moyen-Âge. Donc Valhalla, son nouvel opus, nous replonge dans les premières années de l'âge d'or des Vikings et a choisi pour cela de tracer son propre chemin par rapport à ses deux prédécesseurs, Origins et Odyssey. Une colonie à gérer, de l'infiltration à base de dissimulation dans la foule, l'utilisation plus poussée d'énigmes environnementales, le tout greffé à l'approche action RPG moderne de la licence. Soucieux d'offrir une approche best-of de la série, Assassin's Creed Valhalla a-t-il réussi son pari? Donc avant toute chose, un petit mot s'impose sur les options de début de partie. Sur ce point, Assassin's Creed Valhalla se pare de quelques bonnes idées, offrant une meilleure personnalisation de l'expérience. Il est par exemple possible de paramétrer séparément la difficulté des combats, celle de l'exploration et de l'infiltration. On peut également choisir le sexe de notre héros ou héroïne qui conservera quoi qu'il arrive le nom d'Eivor. Une troisième option laissant le jeu choisir pour vous. Concrètement, vous jouerez dans ce cas la version féminine d'Eivor, exception faite d'un seul arc narratif très précis. Enfin, les options d'accessibilité ont été étendues, offrant davantage de latitude dans les sous-titres ou le paramétrage des commandes que par le passé. Donc Eivor est un guerrier d'un clan norvégien du nom de Raven, mais Eivor, lassé comme ses congénères par le froid cinglant de sa terre natale, a choisi de faire route vers l'Angleterre en espérant y trouver des terres plus hospitalières. Un point de départ qui pose les bases d'un scénario plus sérieux et terre-à-terre que celui de son prédécesseur. Sous prétexte de développer sa colonie et obtenir les faveurs des dirigeants locaux, Eivor va donc enchaîner les déplacements dans différentes régions et royaumes, chacun étant prétexte à un arc narratif unique et centré autour de personnages aussi variés qu'intéressants. Ce système a le mérite de vous laisser un peu de liberté dans l'enchaînement des missions, ce qui peut d'ailleurs avoir une influence sur les personnages croisés à certaines séquences et sur quelques dénouements d'arcs narratifs qui peuvent s'avérer plus riches en rebondissements qu'on ne l'aurait imaginé. Malgré une fin qui manque un peu de consistance, l'aventure s'avère suffisamment copieuse et plaisante pour offrir une représentation immersive et réussie de l'Angleterre de la fin du 9e siècle. On regrettera principalement la présence encore timorée de l'arc narratif du présent, qui a toutefois le mérite d'offrir un peu plus d'audace et de clin d'œil dans son approche actuelle, mais qui manque tout de même d'un soupçon de clarté pour les joueurs moins au fait de cette partie de la série. Donc pour en revenir à la colonie, il ne s'agit pas d'un simple outil scénaristique mais bien d'un véritable outil de gameplay. Vous devez gérer celle-ci en dépensant des marchandises récupérées lors de vos raids et votre exploration du pays pour débloquer de nouveaux bâtiments. Si certains s'avèrent plus basiques, d'autres peuvent être à l'origine de nouvelles quêtes venant apporter un peu de vie au sein de la communauté de la colonie. Le plus intéressant, c'est que cette colonie apporte de vrais moments de transition entre deux arcs narratifs, tout en s'intégrant parfaitement dans le rythme de la trame, proposant même quelques idées bonus plutôt amusantes. Donc par exemple, un conflit à trancher entre deux habitants, une relation potentielle avec l'un de ses occupants, etc. Plus généralement, Valhalla dispose d'une qualité à laquelle on ne s'attendait pas forcément, celle de décloisonner la frontière entre contenu principal et annexe. Ainsi, le journal de quête ne déborde jamais puisque la majorité des quêtes annexes se manifestent sous forme de petits événements assez courts qui ne viendront donc pas vous détourner de votre objectif principal mais proposeront un interlude de quelques minutes sur votre trajet sans pour autant s'avérer forcément futile ou oubliable. L'exploration adopte sûrement le meilleur modèle de toute la série, non seulement par cette approche des événements, mais aussi par une map qui se veut plus aérée et intéressante à parcourir, sans oublier d'être riche en panoramas de qualité. Les points d'interrogation et autres lieux d'intérêt à nettoyer sont ici remplacés par une multitude de petits points de couleur apparaissant à mesure que vous explorez les lieux. Donc les points bleus signifient qu'il s'agit d'un mystère qui peut être pêle-mêle une mini-quête annexe, un cairn à monter, un cercle de pierre dont il faut découvrir le secret ou une rencontre moins bienveillante qui débouchera sur un combat de boss généralement difficile à oublier. Le jaune signifie une richesse à récupérer et le blanc un artefact qui viendra enrichir votre collection ou celle du fantasque collectionneur d'objets romains de votre colonie. Donc je n'irai pas jusqu'à évoquer toutes les activités possibles tant Valhalla en regorge, mais il existe aussi des mini-jeux tels que le flighting, donc une sorte de joute verbale basée sur le rythme et les rimes, et le super horlogue. Je pourrais jouer toute ma vie à ce jeu. C'est un jeu donc basé sur des dés et un système de jetons. Et donc tous ces mini-jeux viennent égayer vos parties si vous souhaitez prendre un peu de recul avec le champ de bataille. Ainsi que des membres, en plus de tout ça, on a aussi des membres de l'ordre des anciens attraqués. Une bien belle idée d'Odyssée que nous sommes ici heureux de retrouver. Donc je l'évoquais tout à l'heure, la progression de la colonie dépend aussi d'une autre activité proposée dans le monde ouvert, les raids. Donc il s'agit tout simplement d'un lieu qu'il est possible de piller pour y récupérer des ressources non trouvables ailleurs, mais essentielles pour construire de nouveaux bâtiments dans votre hameau. Donc pour l'occasion, vous devez forcément faire appel à des membres de votre clan, puisque les coffres en question et certaines portes des lieux ne peuvent s'ouvrir si vous êtes tout seul. N'espérez donc pas boucler ces séquences en toute discrétion, la brutalité s'impose dans cette situation. Un point qui peut sembler regrettable étant donné la liberté généralement permise par la série, mais qui trouve son sens dans la cohérence des séquences visées et n'empêche rien de privilégier l'infiltration le reste du temps. Donc Valhalla se veut plus roleplay dans son approche, ce qui se ressent non seulement dans ses raids, mais aussi dans la collecte et l'ouverture des coffres, puisqu'une grande partie d'entre eux ne sont pas accessibles aussi facilement que par le passé. Il y en a, ils sont franchement chiants. Il n'est pas rare de devoir trouver une clé, un chemin difficile d'accès, un mur à détruire avec des foutus jars qu'on ne trouve nulle part, ou une planche à casser pour accéder à ces précieuses reliques. Plus votre partie progresse, plus ces mécaniques vont se cumuler, allant jusqu'à proposer des petits casse-têtes environnementaux certes tout à fait accessibles, mais assez pertinents pour rendre la collecte des trésors plaisante et crédible, ou qui vous fera rager aussi. Très généreux dans sa proposition, Valhalla parvient à offrir un contenu annexe copieux, intéressant et encore bien plus varié que celui de ses deux prédécesseurs. Les déplacements s'offrent aussi un petit bonus puisque malgré l'absence de véritable passage en mer, vous disposez bien d'un long skip que vous pourrez utiliser à loisir pour naviguer sur les fleuves d'Angleterre. Celui-ci ne s'accompagne pas de batailles navales qui sont absentes de cet épisode, mais il a en revanche une utilité importante dans votre épopée puisqu'il transporte jusqu'à 8 membres de votre clan, que vous pourrez appeler à l'aide en cas de besoin pour peu que vous vous trouviez à proximité d'un point d'eau pouvant accueillir votre bateau. Pour les plus terriens d'entre vous, Ubisoft Montréal a eu la riche idée de soigner également le reste de son gameplay en essayant d'offrir un mix entre les approches des premiers épisodes de la saga et de ses opus récents. Ainsi, la lame secrète permet de nouveau d'assassiner n'importe quel ennemi en un seul coup, mais son efficacité dépend tout de même de vos statistiques en la matière et de la puissance de l'ennemi. Pour les plus coriaces d'entre eux, vous devrez également réussir un mini-jeu d'adresse basé sur le timing et dont la difficulté dépend justement de l'efficacité du coup. Un bon choix qui vient remettre en avant un élément crucial de la série tout en l'inscrivant dans le système d'action RPG actuel. À cela, il faut aussi ajouter le retour d'une approche rappelant elle aussi les débuts de la licence. Lors de plusieurs arcs narratifs, vous serez amené à vous infiltrer dans les villes en utilisant une cape et une capuche, permettant de vous fondre parmi un groupe de moines sur un banc voisin ou de faire semblant de vous adonner à une activité du coin. Un détail qui ravira les fans de la saga, d'autant plus qu'il est intégré avec beaucoup de bon sens et de mesure, offrant de la diversité dans les possibilités de gameplay tout en s'avérant adapté aux séquences se déroulant dans des villes hostiles à ceux que les locaux appellent les Danois. Pour le combat, Valhalla reprend le modèle d'Odyssée sur les sensations et la prise en main, mais l'adapte sur sa progression. Les aptitudes se trouvent désormais sur le terrain ou s'obtiennent via des événements annexes, voire des quêtes, tandis que vous pourrez régulièrement obtenir de nouveaux points d'aptitude à dépenser dans un immense arbre de talents prenant la forme de constellations liées les unes aux autres, lointain cousin visuel de feu le système de sphérié de Final Fantasy X. Pas vraiment ergonomique au premier abord, celui-ci a toutefois le mérite d'être bien construit en vous obligeant à passer par certains chemins sur votre route pour garantir un minimum d'équilibre dans la construction de votre personnage. Moins libre que celui d'Odyssée, il offre cependant assez de possibilités pour définir un minimum le style de votre personnage. Pour ce qui est de l'équipement, Valhalla a la bonne idée de délaisser le loot constant de ses prédécesseurs pour se concentrer sur les possibilités d'amélioration des armures et des armes. Donc moyennant des matériaux se trouvant généralement sous bonne garde dans le monde ouvert, vous pourrez ainsi améliorer la rareté de l'équipement concerné, ce qui augmente le niveau plafond de l'arme en question, chaque niveau étant gravi avec des matériaux plus faciles d'accès. La plupart des équipements ont la bonne idée de changer d'apparence à chaque amélioration, offrant ainsi un renouvellement visuel constant qui apporte une nouvelle fois plus de crédibilité à l'univers du jeu. Il est également possible de choisir librement quel équipement porter dans chaque main, ce qui donne lieu à plusieurs types de combos, donc double hache, hache et bouclier, fléau et dague, voire même double bouclier pour les plus originaux d'entre vous. Si chaque combo s'avère parfaitement jouable, l'arme principale reste tout de même le moteur déclencheur de la plupart des animations proposées, et le résultat est donc un peu moins clinquant qu'espéré, mais la liberté offerte par ce système suffit amplement à l'apprécier, d'autant que les combats n'ont rien perdu de leur qualité et de leur dynamisme. Les types d'ennemis sont d'ailleurs bien plus variés, malgré une intelligence artificielle au comportement parfois bien étrange, qui vient parfois gâcher l'immersion. En revanche, le principal regret réside dans les finish moves, qui proposent un vrai effort de réalisation et s'avèrent aussi sanglants que réussis, mais ont malheureusement la mauvaise idée de ne pas replacer la caméra exactement à l'endroit où vous l'aviez placée avant. Donc cela peut sembler être un détail, mais dans un lieu plus feutré ou entouré d'une foule d'ennemis, c'est justement le genre de détail qui peut vous éviter de vous prendre un coup à cause de la seconde perdue à replacer systématiquement la caméra après chaque finish. Un dernier mot s'impose sur quelques détails qui n'auraient pas forcément leur place ailleurs. Bien exécuté dans son ensemble, Valhalla n'échappe cependant pas à quelques écueils de la série, avec en premier lieu de nombreux bugs. Si aucun bug ne bloque ou nécessite de relancer la console, bon, au tout début quand même un petit peu, hein. Ceci s'avère malheureusement trop récurrent et il faudra attendre quelques mises à jour pour profiter d'une version à la finition plus correcte. On notera ainsi des problèmes réguliers de pathfinding, de scripts de quêtes ayant du mal à se déclencher, ça je suis tombée sur pas mal de bugs de ce genre, des bugs de collision également. Bon, rien de grave, mais mis bout à bout, ces bugs peuvent tout de même agacer et gâcher l'immersion. D'ailleurs, au tout début de... à la toute sortie du jeu, il y avait un bug qui vous faisait carrément planter le jeu, vous étiez obligé de recommencer, quoi. Donc c'était un peu dérangeant. Alors, sur PS4 et Xbox One, on pourra également regretter que le titre semble un peu plus à l'étroit. S'il s'avère visuellement magnifique et plutôt stable en termes de framerate, ce sont surtout les temps de chargement très longs qui peuvent poser problème, d'autant plus que les micro-temps de chargement viennent aussi s'inviter de temps à autre lorsqu'une partie de la map n'est pas encore chargée, ou que vous allez discuter directement avec un marchand peu de temps après un voyage rapide. Un souci qui nuit également à la fluidité de la réalisation lors de plusieurs enchaînements entre cutscene et gameplay, et qui casse le rythme de l'ensemble. Pourtant, il convient de saluer le gros effort d'Ubisoft Montréal sur ce point, puisqu'outre un fort joli plan séquence introductif, on retrouve d'autres cinématiques ou effets de caméra dépassant le simple cadre du champ contre champ et apportant un peu plus de vie à l'ensemble. Les assassinats des membres de l'Ordre des Anciens peuvent aussi s'accompagner d'un finish move montrant le chemin de la lame secrète à travers le corps, et le style plus réaliste des combos et aptitudes en combat est très souvent accompagné de quelques changements de caméra, donc certes pas toujours très heureux, mais qui ont le mérite de renouveler constamment l'impression de dynamisme dans vos affrontements. Un pas certain dans la bonne direction que l'on espère voir encore plus soutenu avec l'arrivée d'une nouvelle génération de machines, peut-être dès les prochains épisodes. Alors, pour résumer les points positifs, on a une immersion incroyable dans l'Angleterre du 9e siècle, la gestion de la colonie qui est très bien intégrée à la trame principale, des arcs narratifs aux thèmes variés et bien traités, des interfaces et des maps aussi ergonomiques que réussies visuellement, le système de progression de l'équipement, du contenu annexe généreux avec pas mal de bonnes idées, l'infiltration à l'ancienne dans certaines villes et des efforts de réalisation sur les cutscenes. Pour les points négatifs, on a les transitions cutscene-gameplay qui manquent encore de fluidité, la fin qui est moins brillante que le reste de l'aventure, le comportement des intelligences artificielles ennemies, j'ai envie de vous dire comme dans tous les Assassin's Creed, beaucoup de petits bugs qui gâchent l'immersion, des micro-chargements intempestifs sur la génération actuelle et quelques problèmes de caméra en combat. Voilà, alors du coup on va pouvoir s'écouter tout de suite une chanson extraite de l'OST du jeu Assassin's Creed Valhalla. Alors c'est Orni Hjalmar, When Horns Resound de Einar Selvik et on revient juste après. c'était la chanson Horny Hjalmar When Horns Resound de Einar Selvik du groupe Wardruna, une chanson extraite de l'OST du jeu Assassin's Creed Valhalla. On va faire une petite pause publicité et on viendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch, on a en 5e place Just Dance 2021 sur Nintendo Switch, un jeu d'Ubisoft. En 4e place c'est FIFA 21 sur PS4, un jeu d'Electronic Arts. En 3e place, c'est Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 2e place, c'est Ring Fit Adventure sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Et en 1ère place, c'est Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, encore un jeu de Nintendo. Le top 3 pour la PS5, on a en 3e place Hitman 3, en 2e place, c'est Assassin's Creed Valhalla, et en 1ère place, Call of Duty Black Ops Cold War. Pour la Xbox Series X, on a en 3e place Immortals Fenyx Rising, en 2e place Hitman 3 et en 1ère place Assassin's Creed Valhalla. Le top 3 pour la PS4, on a en 3e place Call of Duty Black Ops Cold War, en 2e place Assassin's Creed Valhalla et en 1ère place FIFA 21. Pour la Xbox One, on a en 3e place FIFA 21, en 2e place Call of Duty Black Ops Cold War et en 1ère place Cyberpunk 2077. Pour la Nintendo 3DS, on a en 3e place Mario Kart 7, en 2e place WarioWare Gold et en 1ère place Animal Crossing New Leaf, Welcome Amiibo Select. Le dernier top, c'est le top 3 PC avec en 3e place Cyberpunk 2077, en 2e place Microsoft Flight Simulator et en 1ère place Football Manager 2021. On passe maintenant à la news jeux vidéo, jusque-là annoncée pour un vague 2021. La suite du jeu d'affrontement médiéval à la première personne Chivalry 2 vient de dévoiler sa date de sortie sur toutes les plateformes précédemment annoncées et proposera même une bêta fermée pour les joueurs ayant précommandé le titre. Après avoir été annoncé à l'E3 2019 pour une sortie en 2020, avant d'être repoussé en 2021 à cause de la pandémie mondiale de Covid-19, cette fois les développeurs de Thornburner Studios ont donné une date de lancement précise pour Chivalry 2. Et c'est donc le 8 juin prochain que les amateurs de combats médiévaux à la première personne pourront s'affronter dans la suite du premier Chivalry Medieval Warfare. De plus, les joueurs qui auront précommandé le jeu pourront même s'essayer au jeu avant les autres, grâce à une bêta fermée en crossplay disponible du 26 au 29 mars. Donc pour ceux qui précommanderont l'édition standard à 39,99€, ces derniers auront droit à un skin d'arme royale The Hunger. Cependant, ceux qui prendront l'édition spéciale à 49,99€ auront quant à eux accès à l'armure de chevalier de joute Agatha avec son épée royale, l'armure de chevalier de joute Monson, la hache du cavalier d'or, un objet fantasy de la rose, ainsi que d'autres éléments non précisés. Chivalry 2 sera donc disponible le 8 juin sur PC via Epic Games Store, sur PS4, sur Xbox One, sur PS5 et sur Xbox Series. On passe maintenant à la news technologie. La technologie ne cesse d'évoluer et les entreprises trouvent de plus en plus d'idées pour nous faciliter la vie et nous divertir. C'est notamment le cas de Spotify qui souhaite utiliser une technologie brevetée permettant d'identifier les émotions en scannant la voix des utilisateurs. Grâce à cette technologie, Spotify voudrait suggérer des chansons en fonction des émotions. Donc en 2018, Spotify a demandé un brevet technologique qui pourrait recommander des chansons en fonction de votre état émotionnel, de votre sexe, de votre âge ou de votre accent. Presque 3 ans après, le géant mondial du streaming audio et musical a enfin obtenu l'accord de l'United States Patent and Trademark Office pour le brevet, a rapporté donc Music Business Worldwide. Selon le dépôt de brevet, la technologie fonctionne en analysant l'intonation, le stress, le rythme et les types d'unités de parole, afin que cela puisse permettre de détecter et de catégoriser l'état émotionnel d'un locuteur. Outre la voix de l'utilisateur, la technologie peut également analyser les bruits de fond tels que le chant des oiseaux, les imprimantes ou la circulation, et elle peut déterminer si vous êtes à la maison, en promenade ou même au bureau. La technologie sera également combinée avec d'autres informations comme les chansons déjà jouées par un utilisateur et les goûts musicaux de ses amis. L'ensemble de toutes ces données permettrait d'affiner encore plus les chansons à recommander, Donc pour l'instant, on ne sait pas encore quand cette nouvelle fonctionnalité de Spotify sera disponible, mais il va sans dire qu'elle va changer la donne dans le domaine du streaming musical. Je rappelle aussi que cette nouvelle technologie n'est pas le seul projet innovant de Spotify, puisqu'en septembre de l'année dernière, l'entreprise a également déposé un brevet pour permettre aux utilisateurs de superposer une piste musicale avec leur propre voix. Voilà, on va maintenant pouvoir finir l'émission avec les sorties de la semaine. On a eu aujourd'hui, vendredi 12 février, la sortie sur PC de Lucid Cycle. On aura une sortie ensuite pour la Saint-Valentin, dimanche 14 février, avec Half Past Fate Romantic Distancing sur PC. Pour mercredi 17 février, on aura la sortie de Black Steel sur PC et Speed Limit sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Et enfin, la toute dernière sortie de la semaine, ça sera pour jeudi 18 février avec King of Seas, qui sortira sur PC, PS4 et Nintendo Switch.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble, que vous pourrez retrouver lundi prochain, de 21h à 22h. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchè fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.